Harry Wallander, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes directeur général et gérant chez Hamilton Asset Management. Vous gérez notamment dans l'environnement small et mid-cap. Alors, nous nous sommes croisés à différents événements où vous avez rencontré des mid-cap comme moi d'ailleurs. On va revenir dans le détail sur un peu votre sentiment sur ces mid-cap. Si on revient sur le début de l'année, il y a eu un vrai changement sur ce segment-là. Après avoir été délaissé en 2011, ce qui est assez rare, les mid-cap sont revenus à meilleure fortune. C'est votre sentiment?
Tout à fait. En fait, on a vu un phénomène de flux en fin d'année dernière, avec des rachats massifs, ce qui a fortement pesé en fait sur cette classe d'actifs, avec un certain nombre de valorisations qui n'avaient plus de sens par rapport à la réalité économique, qui est quand même extrêmement éloignée de ce qu'on a connu en 2008. Et il y a eu un retour peut-être un peu excessif en début de l'année. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs en janvier, février sur cette classe d'actifs, mais je crois qu'elle recèle vraiment un intérêt particulier, comme le montre la surperformance structurelle sur la durée de cette classe d'actifs par rapport aux grandes valeurs. Parce que si vous prenez en compte la dernière décennie, qui est considérée pour la plupart des observateurs comme une décennie perdue pour les actions, c'est certes vrai pour les valeurs du CAC 40 qui affichent une baisse de l'ordre de 20% hors dividende, alors que les Small Mid affiche, si on prend uniquement l'évolution de leur indice, une progression de l'ordre de 70%, donc une surperformance sur la durée qui est vraiment structurelle et impressionnante, avec quelques à-coups, mais finalement avec des écarts relativement peu importants dans les phases de baisse par rapport aux valeurs du CAC 40.
Donc peut-être plus des questions liées, on va dire, à la peur, à ce qui s'est passé effectivement fin d'année dernière, des questions de liquidité. Donc on a vendu ce type de segment, on va dire,
Voilà.
un peu rapidement pour éviter ces risques.
Tout à fait.
Alors des risques qui ne sont pas forcément venus, en tout cas pour certaines valeurs. Est-ce que on a un peu plus de visibilité sur ce segment-là que tout de même? Il y a eu des publications de résultats. Comment vous avez-vous vu ces publications?
Alors, je crois qu'il faut vraiment faire la distinction société par société, secteur par secteur. Ce qu'on peut dire, grosso modo, hein, et c'est à la fois vrai, à mon avis, pour les grandes capitalisations boursières et les petites capitalisations boursières, il faut éviter les valeurs qui sont trop exposées à des risques politiques domestiques en Europe et plutôt rechercher des valeurs à croissance visible. Donc on voit qu'un certain nombre de valeurs, que ce soit des grandes valeurs, mais aussi naturellement beaucoup de petites valeurs, sont au plus haut aujourd'hui parce qu'elles affichent une visibilité sur leur croissance pour l'année, voire les années à venir. Et dans un environnement qui va de taux relativement bas et qui va rester durablement bas, et compte tenu de l'absence de visibilité sur le scénario économique pour les années à venir, la seule certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que la croissance sera molle, voire extrêmement molle dans les pays occidentaux. Les valeurs qui affichent une visibilité sur leur croissance future seront de plus en plus recherchées.
Donc ça, c'est valable là pour les deux, aussi bien pour les
Voilà, tout à
grandes
fait.
que...
Naturellement,
Ouais.
dans l'univers des petites et moyennes valeurs, vous avez davantage de valeurs de croissance. Et donc, c'est un thème qui sera de plus en plus récurrent. Un autre thème qui a refait déjà un peu surface en 2011 et qui va continuer à être un thème à jouer, c'est le thème des OPA, parce que les sociétés ont beaucoup mieux traversé la crise que les États, donc beaucoup de sociétés ont beaucoup de cash, donc il y a trois possibilités d'utiliser le cash, soit de faire des OPRA partiels, hein, comme on l'a vu encore récemment avec une mid-cap comme Havas, hein, soit de distribuer des dividendes importants, soit de procéder à de la croissance externe procédant à des acquisitions de sociétés. On l'a vu, par exemple, en début de l'année avec Infovista, qui a fait l'objet d'une OPA, mais aussi un certain nombre de sociétés étrangères, comme International Power, qui est une filiale, qui était déjà une filiale à hauteur de 70% du groupe GDF Suez. Donc, il y a un phénomène de rachat aussi des minoritaires.
Donc
Et
là, ça
puis,
permet de
le
racheter.
secteur aussi de l'énergie,
Ouais.
nous sommes un secteur qui devrait faire l'objet de concentration. On a déjà eu une opération début de l'année avec Cove Energy, et puis nous restons toujours persuadés que d'autres sociétés, notamment Maurel et Prom, seront des cibles idéal pour des acteurs asiatiques, voire chinois.
Là, effectivement, vous parlez d'International Power, on voit les grands groupes, finalement, ça permet d'acquérir de la part de marché
Bien sûr.
facilement.
Et puis également une exposition à la croissance des pays émergents. Certes, il y a un ralentissement dans les pays émergents, mais la croissance reste naturellement, structurellement, bien supérieure à ce qu'on peut observer en Europe.
Alors, c'est vrai que dans ce segment small et mid, il faut distinguer, on va dire, les sociétés, les typologies de sociétés. Il y en a quand même certaines, pour celles peut-être que vous avez rencontrées, où il y a un peu de mal sur les prochains mois, on va dire, sur cette visibilité, notamment les sociétés qui sont un peu franco-françaises, où elles disent un peu tous, on n'a pas trop de visibilité, ce qui n'empêche pas qu'il y a peut-être des opportunités. Comment on arrive à déceler un petit peu ces opportunités? Parce qu'il y a un petit peu un attentisme, on va dire, de leur part. Elles ne vont pas annoncer des choses dans le contexte actuel.
Tout à fait. Donc, je crois qu'il faut regarder vraiment les sociétés qui sont fortement exposées, en fait, à la croissance internationale. On en trouve à la fois dans les grandes capitalisations boursières, mais aussi dans les petites et moyennes capitalisations boursières. D'ailleurs, quel que soit leur niveau de capitalisation. Donc, vous avez dans les petites capitalisations boursières, même s'il y a eu un léger décalage au Q1 au niveau de son chiffre d'affaires, il y a Hologram qui est une société extrêmement dynamique et dont le cours est pratiquement plus haut et qui surfe sur des tendances lourdes de croissance et qui a une forte exposition à la fois aux États-Unis mais aussi dans les pays émergents. On a aujourd'hui la publication d'Edenred qui a été d'une excellente facture avec une forte exposition notamment au Brésil. Vous avez des sociétés comme Twax qui sont très exposées en fait à l'évolution du commerce extérieur. Donc je dirais que vous trouver dans cette classe d'actifs qui devient quand même extrêmement large, parce que l'indice mid-small peut aller jusqu'à 5-6 milliards de capitalisation boursière, des sociétés de toute taille qui ont une forte exposition aux marchés internationaux ou vraiment sur des niches très spécifiques. Par exemple, vous faites référence au dernier Small Cap Event, donc j'ai rencontré une société vraiment de taille assez modeste comme Tracker qui surfe également sur des tendances lourdes qui sont notamment la détection de vols sur des voitures mais surtout aussi de motos ou scooters et qui est en train de modifier son business model pour passer d'une distribution via les concessionnaires automobiles plutôt vers des accords directs avec des constructeurs automobiles avec un effet de levier naturellement très intéressant sur son chiffre d'affaires prévisionnel.
De votre point de vue, en conclusion, 2012, on devrait avoir un certain retour à la normale, c'est-à-dire cette surperformance affichée, en tout cas au cours des dernières années, l'exception étant 2011,
Oui.
des mid, des small.
Voilà, tout à fait. Je pense que le stock picking sera de rigueur cette année, que les valeurs de croissance qui sont plus nombreuses dans la classe d'actifs des petites et moyennes valeurs, notamment l'absence des bancaires et des compagnies, quasiment la quasi-absence de compagnies d'assurance est naturellement un atout pour cette classe d'actifs. Et il y a beaucoup de belles valeurs, soit de croissance ou d'autres valeurs qui feront l'objet de retrait de cote ou d'OPA.
Bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Harry Wallander. On rappelle, vous êtes donc gérant chez Hamilton Asset Management.
Merci beaucoup.